Écho de ma commune, vous êtes aujourd'hui présenté par Christophe Jubien. Nous avons rendez-vous avec Michel Cibois, président de la Chambre de métiers d'Eure-et-Loire. Nous allons revenir avec lui sur les principales missions et actions de la CMA 28. Michel Cibois, vous êtes responsable de la Chambre des métiers d'Eure-et-Loire depuis déjà quelques années. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour parler de cette chambre consulaire mise au service du monde artisan et des services. Eh bien, elle en rend cette chambre de métiers de nombreux, et nous allons le voir au cours de cette émission. Tout d'abord, je vais faire mon Michel Chevalet, une chambre de métiers, comment ça marche ?
Une chambre de métiers et de l'artisanat, c'est pour gérer la représentation des artisans. Donc c'est géré par des artisans élus par leur pair pour 5 ans. Donc c'est pour ça qu'on fait un bilan de fin de mandature.
Et donc vous-même, vous êtes élu par vos pairs, quoi ?
Tout à fait, je suis élu par mes pairs. Je suis moi-même artisan maçon et élu par mes pairs.
Alors je le disais à l'instant, la Chambre de métiers est au service de l'entreprise et voire même, elle intervient avant la création d'entreprise en tant que conseiller. Création ou reprise d'entreprise, bien sûr. En tant que conseiller, alors quel type de conseil vous donnez aux candidats à la reprise ou à la création ?
Les portes de la Chambre de métiers sont ouvertes à ce qu'on appelle à tous les porteurs de projets. Un porteur de projet, c'est qui, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est salarié, qui veut créer son activité, ou c'est un demandeur d'emploi. Enfin bon, tout est possible. Hein. Les porteurs de projet, donc on les reçoit, on les accompagne et on les inscrit au SPI, ce qu'on appelle le SPI, le stage préalable à l'installation. Pendant 5 jours, ils vont se familiariser avec toutes les, j'allais dire les contraintes, mais tout le milieu d'une entreprise, hein, parce que qu'on soit tout seul ou qu'on ait 50 salariés, les contraintes et les obligations sont les mêmes. Donc la moindre des choses avant de s'installer, c'est de les connaître. Donc on fait le SPI qui, pendant 5 jours, accompagne, forme, informe et forme les porteurs de projets. Alors sur les relations avec les banques, sur les statuts juridiques, les notaires, la protection du patrimoine, les contrats de travail, la publicité, les recherches de locaux, enfin tout ce qui gère, tout ce qu'on peut imaginer, ce qui gère la vie d'une entreprise.
Est-ce qu'il arrive qu'au bout de 5 jours, vous disiez à un candidat, écoutez non, votre projet il n'est pas viable, ça arrive ça ?
Ah ben après, le fait de s'inscrire ou pas de s'inscrire, c'est une démarche personnelle. On peut leur dire tout ce qu'on veut. S'il veut s'inscrire, on n'a pas les moyens de l'empêcher de s'inscrire. Il a des obligations pour s'inscrire. Il faut qu'il soit qualifié dans les métiers. Dans certains métiers, il y a un besoin, une obligation de qualification, de diplôme ou d'ancienneté dans le métier. Au-delà de ça, nous, on peut pas empêcher quelqu'un de s'inscrire.
Ils sont nombreux, les candidats à la création d'entreprise en France, enfin en tout cas en Eure-et-Loire, pour ce que vous envoyez, vous ?
On envoie environ une trentaine tous les 15 jours.
C'est énorme, ça ? Une trentaine tous les 15 jours. Les Français sont actifs, alors ?
Et oui, non mais on le voit dans le bilan là en 5 ans, on a augmenté le nombre d'entreprises artisanales en Eure-et-Loire de 1500.
Alors, ces créateurs sont des jeunes ou ce sont des gens moins jeunes qui ont déjà une longue expérience ? Il y a de tout.
Il y a tous les profils, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Et donc il y a quelqu'un qui est salarié depuis quelques années, qui a envie de voler de ses propres ailes, qui veut s'installer, qui veut créer une entreprise. Il y a aussi, malheureusement, par les temps qui courent, des gens qui se retrouvent sans emploi, puis qui disent pourquoi je créerai pas mon emploi. Hein, c'est ce qu'on a appelé un certain temps, ce qu'on appelle maintenant les micro-entreprises. Donc on s'aperçoit là pendant les 5 ans, donc le nombre d'entreprises a évolué. évolué, mais le nombre de salariés dans l'artisanat a diminué, ce qui fait que, voilà, de cause à effet, on s'aperçoit que ceux qui ont perdu leur emploi ont créé leur emploi dans l'artisanat.
C'est ce qu'on appelle, oui, l'auto-entreprise, quoi. Finalement, on devient son propre salarié, quoi.
Ce qu'on appelait l'auto-entreprise aujourd'hui, l'auto-entrepreneur n'existe plus. C'est la loi Pinel a transformé, ça n'est plus des auto-entrepreneurs, c'est des micro-entreprises. Regrouper les micro-entreprises qui existaient déjà avant, donc maintenant c'est les micro-entreprises.
Et les micro-entreprises ont une durée de vie importante?
C'est jeune, hein, donc on peut pas, on peut pas encore. Après, si ces micro-entreprises ne déclarent pas de chiffre d'affaires, au bout d'un certain temps, elles sont radiées.
Ouais. Est-ce que le parcours d'un créateur d'entreprise, c'est un parcours du combattant, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui en France? On se plaint qu'il y a trop de rouages administratifs.
Ah ben, on s'en plaint, mais en même temps on les demande. Donc où est-ce qu'on met le curseur, hein? On demande plus de protection, on demande plus de judiciaire, on demande plus de barrières. Alors on peut pas les demander et s'en plaindre en même temps. Donc il y a peut-être un juste milieu à trouver pour qu'il y en ait un peu moins et que ce soit plus facile de faire une entreprise et de plus facile pour la développer, donc d'embaucher.
Alors là, moi, je parle là à l'artisan, puisque vous l'êtes aussi. Est-ce que c'est quand même difficile aujourd'hui d'être artisan? On se plaint souvent, j'ai souvent entendu ça, moi, dire, voilà, il y a trop d'administratifs, c'est trop compliqué, c'est un véritable labyrinthe, quoi, finalement.
Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On s'en plaint d'un côté que c'est compliqué, l'administratif, et puis les administrations nous aident pas forcément à simplifier les choses. La simplification, c'est dans la bouche de beaucoup de personnes, mais sur le terrain, c'est un petit peu plus compliqué. C'est aussi pour ça que les chambres de métiers existent, pour accompagner aider les entreprises qui sont bien souvent tout seuls avec un ou deux salariés, qui n'ont pas la structure juridique et la structure administrative pour les accompagner au jour le jour. Donc les services de la chambre de métiers sont aussi là pour les accompagner, pour faire une offre d'emploi, les contrats d'apprentissage, les mises aux normes d'ateliers, faire participer à des salons, recruter, aller à l'export, enfin bon, toute la vie d'une entreprise, la chambre de métiers accompagne les artisans.
Oui, il y a même des permanences, j'ai vu, d'experts comptables et d'avocats.
Et oui, c'est ça, voilà, pour répondre aux questions du jour le jour. Donc l'artisan qui a un doute, une question, plutôt que d'aller voir son expert comptable ou un avocat qui va, ça va être tout de suite avec des honoraires, il y a des permanences d'une demi-heure sur rendez-vous, c'est gratuit, c'est offert il va pas rentrer dans le détail de son affaire, mais on peut la survoler et puis avoir une orientation.
Alors, vous organisez aussi, donc vous le disiez, des stages de préparation à l'installation. Qu'est-ce qu'on va y faire finalement dans ces stages?
Toute la vie d'une entreprise va être balayée pendant ce stage préalable à l'installation. Alors ça commence par le choix du statut juridique, hein, entreprise individuelle, SARL, EIRL, enfin tout, avantages, inconvénients, protection du patrimoine, le collaborateur, conjoint du collaborateur, les assurances obligatoires selon les métiers, l'existence des organisations professionnelles qui peuvent aider selon les métiers. Les notaires pour protéger le patrimoine, s'il y en a déjà, ou si le patrimoine de l'entreprise a constitué, comment l'organiser, la relation avec les banquiers, la relation avec les experts comptables, les mutuelles, le RSI, pour ceux qui sont au RSI. Voilà, toute la vie d'une entreprise, le développement durable, les normes, l'hygiène, tout ça c'est informé, balayé pendant les 5 jours pendant la semaine de création d'une entreprise.
Vous êtes présent aux deux bouts de la chaîne, création mais aussi transmission d'entreprise pour les patrons qui arrivent à l'âge de la retraite. Vous leur enseignez à transmettre une entreprise. Moi je pensais que ça allait de soi, mais non.
Ce qu'on dit souvent, c'est qu'une transmission réussie, c'est une transmission préparée. ça se transmet pas comme ça. On vend pas une entreprise comme on peut changer de voiture. Ça se prépare parce qu'une entreprise c'est artisanal, mais entreprise en général, c'est avant tout un homme, un dirigeant, donc avec du relationnel avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec son banquier, avec ses salariés. Tout ça, ça forme un tout. Donc si on change la tête, ça se fait pas en claquant dans les doigts. Il y a une période de préparation, d'adaptation, de transmission et de suivi. Et il faut que entre deux personnes, c'est un peu comme un mariage, hein. Donc il faut il y a un minimum de feeling à avoir entre les deux personnes.
Le souhait du chef d'entreprise qui va partir à la retraite, c'est aussi, j'imagine, que son activité perdure, même en d'autres mains, mais qu'elle perdure. Et ça, c'est pas toujours gagné. On a bien vu des rachats d'entreprises par des groupes, par exemple, qui finalement allaient au bout de 6 mois fermer la boîte. Ça, vous essayez de veiller à ce que cela ne se produise pas. Vous avez des leviers pour cela?
Oui, on les accompagne, on les met en relation, on regarde si les deux profils correspondent. Et puis c'est une entreprise, quand on l'a créée, c'est un bébé en fait, hein, on l'a créée, donc on a créé un bébé, on l'a fait évoluer, elle a pris de l'importance et après on transmet son bébé, donc c'est toujours un petit peu difficile, mais on souhaite tous que le bébé continue à grandir, donc pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, à la chambre de métier, ouais, on accompagne les deux, hein, le créateur et le repreneur, pour des mises en relation, et on continue à les suivre avec nos outils.
Alors, en parcourant votre site internet, je suis tombé sur un chiffre que j'ai trouvé plutôt plaisant, c'est qu'une entreprise sur 4 sera à transmettre dans les 5 prochaines années. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure.
Oui, mais ça c'est un chiffre que tout le temps est le même, parce que c'est mécanique, hein, on vieillit, donc tous les ans il y a des anciens, mais tous les ans il arrive des jeunes pour reprendre. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'une entreprise transmise ou reprise a plus de chances de perdurer qu'une création pure. Mais en même temps, de créer son entreprise, c'est plus facile, puisqu'on peut partir avec rien. Tandis que quand on fait une reprise, il y a un minimum d'apport financier à avoir pour reprendre quelque chose qui existe.
Donc les repreneurs, ce sont déjà des gens qui sont peut-être déjà eux-mêmes chefs d'une autre entreprise, ou qui arrivent vraiment avec un pécule important.
Il y a tous les profils dans les repreneurs. Oui, comme vous dites, il peut y avoir quelqu'un qui a une entreprise, et puis pour grossir, c'est plus facile de racheter une autre entreprise de même taille pour doubler tout de suite l'effectif et le chiffre d'affaires. Donc c'est une possibilité qui existe. Et il y a aussi des gens qui changent de métier, hein. Malheureusement, en ce moment, il y a des cadres qui peuvent être licenciés dans des restructurations qui arrivent avec un petit pécule, et plutôt que de partir de zéro, ils utilisent un outil de production qui existe déjà, avec des salariés, des clients et un outil de production, donc ça part tout de suite.
Alors, vous intervenez aussi dans le domaine de l'apprentissage. On voit que l'apprentissage se porte plutôt pas mal en Eure-et-Loir, avec 4 CFA. C'est une voie royale vers l'emploi. Je vois qu'il y a par exemple un jeune homme là qui vient de sortir à l'instant où j'arrivais, qui s'est inscrit, je crois, au CFA du bâtiment. Ça marche bien aujourd'hui en Eure-et-Loir.
Oui, ça marche bien en Eure-et-Loir. L'apprentissage marche plutôt bien par rapport à d'autres départements. Alors pourquoi? Peut-être parce que la chambre de métier est dynamique, on peut l'espérer. Mais oui, c'est une voie royale. Dans tous les cas, c'est une voie qui fonctionne depuis longtemps. Même s'il y a eu quelques baisses ces dernières années, hein, avec les aides et les conditions qui sont un peu pas faciles pour les maîtres d'apprentissage, et puis la baisse d'activité qui a fait aussi que on hésite à prendre un apprenti, parce que un apprenti, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est un salarié, un apprenti a un salaire, c'est un contrat de travail, hein. Donc mais oui, l'apprentissage fonctionne bien. L'apprentissage, c'est l'apprentissage d'un métier, mais c'est aussi l'apprentissage d'un emploi, parce que beaucoup ont tout de suite un emploi derrière, et au jour d'aujourd'hui, un artisan sur deux est issu de l'apprentissage. Donc c'est une belle école.
Il y a certains secteurs qui avaient du mal à recruter il y a encore quelques années. Il y avait du boulot, mais finalement, on n'arrivait pas à trouver de jeunes. C'était notamment le BTP. Est-ce que c'est fini, ça ou...
Aujourd'hui, c'est fini. C'est peut-être même un petit peu le contraire, hein, parce que comme il n'y a pas assez d'activité pour les entreprises, donc on hésite à embaucher. Bon, après, ça permet de réfléchir un petit peu plus profondément avant de soit de prendre un apprenti ou soit de rentrer en apprentissage. Mais il y a toujours de la place et il y a toujours des jeunes qui sont motivés dans tous les métiers. Trouveront forcément un maître d'apprentissage, une entreprise qui les prendra et qui les accompagnera jusqu'à l'emploi.
Alors, une petite parenthèse, la réforme du code du travail, enfin, du moins ce qui en reste, ça va dans le bon sens ?
Je dirais beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Pour l'instant, c'est encore à l'étude. Ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été enlevées. Ce qu'il en reste, ça va être bénéfique, à mon avis, pour le moment, aux grosses entreprises, hein, puisque les négociations pourront se faire à celles qui ont des syndicats dans l'entreprise. Donc, par définition, ce sera bénéfique aux grosses entreprises et les petites entreprises sont passées à côté.
Est-ce qu'il faut attendre que la reprise aussi se fasse sentir pour que les petits entrepreneurs embauchent à nouveau, ou il faudra un autre d'autres facteurs, quoi, y compris de la part peut-être du gouvernement, des incitations?
Vous l'avez dit, hein, la seule facteur pour qu'il y ait de l'embauche, c'est qu'il y ait de l'activité. Hein. On n'embauche pas parce qu'on a une aide ou parce qu'on a un peu une subvention. Hein. On embauche parce qu'il y a de l'activité. Il y en a qui le disent, ouais, c'est pas senti par toutes les activités, mais oui, il y en a qui le disent que ça bouge un petit peu, donc on l'espère. Bizarrement, l'artisanat a toujours un peu d'inertie dans la crise comme dans la reprise. Parce que l'artisan, c'est souvent des petites tailles. Donc quand la crise arrive, elle a toujours un volant, un carnet de commandes d'avance. Donc il consomme ce carnet de commandes. Et quand la reprise reprend, c'est bien souvent pour les grosses structures. Mais bon, comme l'artisan est plus caméléon que dinosaure, il s'adapte plus facilement et il résiste aux crises. Mais là, elle est difficile. Oui.
Alors, vous venez de dresser un bilan de 5 années d'activité au sein de la Chambre de Métiers. C'est un bon bilan. J'ai pas encore eu l'occasion de l'observer, de le parcourir, mais les nouvelles sont bonnes.
Les nouvelles sont bonnes, je sais pas. Après, c'est chacun qui regardera le bilan, qui en fera son idée. Oui, bien sûr, on est satisfait. Mais ça permet à l'occasion de faire le bilan comme ça de fin de mandature, parce que nous, c'est le travail quotidien. Mais de mettre ça sur papier, on s'aperçoit justement qu'à cette occasion, que finalement, on a fait beaucoup de choses. Donc il y a le travail d'une chambre de métier, l'activité d'une chambre de métier, c'est beaucoup de choses, donc ça permet de les mettre sur papier, et il y a beaucoup de pages.
Ouais. Parmi les nouveautés, j'ai observé que par exemple, vous alliez désormais, vous, à la rencontre des chefs d'entreprise, considérant que finalement, ils n'ont pas forcément le temps d'aller vous voir. Vous organisez comme ça, vous avez un camion qui sillonne les rues du département.
Oui, on appelle ça l'artisanat tour. On a commencé en 2014, 2015 et on va continuer en 2016 sur une idée assez simple. Hein, la chambre de métier, c'est quoi? Oui, c'est le truc qui est à Chartres, là, mais bon, nous, on n'a pas le temps d'aller là-bas. Donc, on a pris l'initiative avec un camion, avec des partenaires, Renault et d'autres, d'aller dans les principales villes de Eure-et-Loir entre midi et deux pour rencontrer les artisans, les écouter et répondre à leurs problématiques. Et ça a plutôt bien plu, puisqu'on a refait en 2015 et on va refaire en 2016. Aller à la rencontre des artisans dans les principales villes pour parler des sujets d'actualité. Et les gens qu'on rencontre dans ces lieux, c'est pas des gens qui viendraient à Chartres spontanément, mais tous ceux qui viennent avec une question précise. Et puis moi, j'ai un problème, j'ai avec mon apprenti, j'ai un problème avec le RSI, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un projet d'investissement, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, c'est à ça que sert l'artisanat tour.
Est-ce que le moral des artisans est plutôt bon aujourd'hui, ou est-ce que effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'inquiétude est là avec la crise, quoi?
Oui, l'inquiétude avec la crise, elle est là, mais c'est pas en se plaignant tous les jours qu'on va réussir. Donc, faut oser les choses, faut créer. Bon, les chiffres montrent que la création existe dans l'artisanat. Donc, globalement, même si c'est difficile, ça faut pas se, on peut pas se cacher, mais c'est difficile pour tout le monde, hein, même pour les gens qui sont pas dans l'artisanat. Donc, il faut au les cœurs et en avant l'artisanat.
L'artisanat est toujours le premier employeur de France, c'est ce qu'on a l'habitude de dire.
L'artisanat, oui, c'est une formule qui est retenue de tous. L'artisanat, première entreprise de France. Pourquoi ? Parce qu'on est présent partout. On est dans tous les métiers et présent sur tous les territoires, dans les villes, dans les campagnes, en milieu rural, en milieu urbain. On est présent partout, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le bâtiment. On est présent partout, dans l'automobile. Donc, oui, artisanat première entreprise de France, c'est une formule qui existe toujours et qui est toujours valable.
Je ne crois pas qu'on se quitte sans qu'on parle des artisanales quand même, parce que ça, c'est une vitrine extraordinaire. Je crois que c'est un des plus grands salons en France aujourd'hui, les artisanales de Chartres, que vous organisez, que vous co-organisez.
Alors, c'est le seul salon de cette dimension qui est ouvert exclusivement aux artisans. C'est le plus gros, c'est le seul qui est ouvert exclusivement aux artisans. Les artisanales, c'est un salon fait par des artisans, puisque c'est la chambre de métier de l'artisanat, donc des artisans élus qui le portent pour des artisans exposants.
Et c'est très séducteur finalement. Est-ce que la bonne santé de l'apprentissage en Eure-et-Loire ne tient pas justement à cette grande vitrine tous les ans où il y a du passage, il y a énormément de visiteurs? C'était combien de visiteurs à peu près l'an dernier?
On est au-dessus de 80 000 visiteurs là, donc c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Mais peut-être que, j'osais pas le dire, mais peut-être que l'apprentissage en Eure-et-Loire c'est grâce aux artisanales, mais c'est vous qui l'avez dit. Hein.
Michel Cibois, merci beaucoup. Votre bilan, vous, personnel, vous êtes content, toujours heureux d'occuper ce poste?
Oui, ce poste de président de chambre de métier avec l'équipe qui est autour de moi. Il y a d'autres élus, hein, je suis pas tout seul, hein, on fait jamais rien tout seul, hein, on va plus loin à plusieurs, donc grâce à l'équipe qui est autour de moi, oui, on est plutôt satisfait de ce travail. Alors il y a les élus, mais il y a aussi les permanents, les collaborateurs de chambre de métier, donc c'est un travail d'équipe en tous les cas, c'est un travail collectif, donc c'est pour ça qu'on a voulu le faire partager avec tous les artisans d'Eure-et-Loire pour leur dire voilà ce que la chambre de métier est capable de faire pour vous et ce qu'elle a fait pendant ces 5 ans.
Alors là, vous avez parlé des élus de la chambre de métier. Je vais vous parler des élus des collectivités territoriales. Est-ce qu'ils font assez pour l'entreprise en règle générale? Est-ce que vous avez d'abord de bons rapports avec eux? Est-ce que vous attendez autre chose d'eux encore?
Nous, en chambre de métier, on a des bons rapports avec tous les élus, oui, bien sûr, évidemment. Alors après, c'est vrai qu'en ce moment, les collectivités sont mises un peu à... Alors, je sais pas comment on peut dire ça, mais bouleversé pour le moins par rapport aux répartitions des nouvelles compétences de la loi NOTRe. Donc on est nous aussi concernés parce que on avait des partenaires traditionnels, notamment le département avec un territoire départemental, nous chambre départementale, des relations de proximité avec les départements. Maintenant avec la loi NOTRe, ça va être plus sur le côté régional et les communautés de communes, les agglos. Donc c'est en train de se faire. Les départements regardent comment ils peuvent aussi nous accompagner, parce que les artisans c'est du domaine économique, mais c'est aussi du domaine de l'aménagement du territoire. On intervient aussi sur le tourisme, hein, le métier d'art. On intervient sur beaucoup de secteurs. Donc les uns les autres sont en train de regarder comment ils peuvent continuer à accompagner les chambres de métiers, parce que les chambres de métiers, on a une particularité quand même, c'est nous qui gérons le fichier en direct des artisans, donc au jour le jour, on connaît les artisans, hein, où ils sont dans les communes, et les métiers de l'artisanat sont nombreux, donc nous connaissons bien les problématiques des métiers de l'artisanat et de leur représentation, donc on est en cours de travail avec le conseil régional, le conseil départemental et les agglos pour essayer de ensemble de travailler pour répondre aux besoins des artisans, parce que chacun dans son coin, tout seul, on n'y arrivera pas, on n'arrivera qu'ensemble.
Est-ce qu'un dispositif départemental comme Boost Emploi, par exemple, ça vous aide ?
Oui, c'est un bon dispositif, c'est ce que ça, c'est mis en relation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises qui offrent des emplois. Oui, c'est une bonne chose, oui.
C'était Michel Cibois, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loire. On se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition Chartraine d'Écho de ma commune et de mon canton. Les programmes de Radio Grand Ciel se poursuivent. Restez nos fidèles. You still take. So they're buying, stacked high on shelves. Cardboard box available, skeleton mother holds her abandoned child. Uncovered, no blankets, no nothing, just how I was looking at myself, buried alive. Military donations, government research, science, churches, and museums. I was looking at myself, very alive. I am my ancestors, my mother's stolen grave. Wiped my face from the right to live on this land, creation came. You still take. Oh, and you still die. Sterilized women who cannot give birth. Strip my the womb of mother earth. Remove my future, leaving no trace to say that I'm a non-existent race. I cannot claim from where I came. You hear the truth, no guilt, no shame. You hear the truth, but no guilt, no shame. And the indigenous world and mine, the indigenous body and soul, carries a cry from the center of the earth. Center of the earth. Hey, if you wipe away these people, you will wipe away protection that provides all people with life on earth. She's fighting to live all that she gives. The indigenous world and mind, they are indigenous body and soul, carries a cry from the center of the earth. Center of the earth, yeah. Fighting on the front lines, government corporations sucking life from what feeds them, leaving the millions with no reason and nowhere to go. She's dying to give all that she is. You still take. The indigenous world and mine, the indigenous body and soul, boy, carries the cries from the center of the earth. Center of the earth. Oh, Gina, oh, oh.
ordinaire.